Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour Brasil Alto Astral sur Aligre FM 93.1. Gilles Bourgarel pour vous servir, tâchez de vous être agréable. Nous recevons Ana Lúcia Paiva ce matin. Bonjour Ana Lúcia.
Bonjour Gilles.
Merci de nous consacrer un petit peu de temps. Ça fait très longtemps que je voulais vous interviewer, Ana Lúcia, parce que je vous connais depuis quelques années et je ne connaissais pas l'histoire de votre famille. Je suis allé voir évidemment le film Événement, je suis toujours là, de Walter Salles. J'étais au Brésil au mois de novembre et tous mes amis brésiliens me disaient il faut absolument que tu ailles voir ce film, il faut absolument que tu ailles voir ce film. En plus, il se trouve que j'aime beaucoup le réalisateur Walter Salles. Je crois que j'avais vu tous ses films, si je ne dis pas de bêtises. Et donc je vais au cinéma et là, pendant la projection, je me dis mais nom d'un chien, c'est l'histoire de Ana Lúcia. Parce que vous m'aviez raconté que vous avez un frère qui est assez connu au Brésil, qui est auteur, hein, qui a connu pas mal de succès. Il se trouve qu'il y a très longtemps, des amis brésiliens m'avaient offert, je crois, le livre qui a le plus fonctionné, qui s'appelle Feliz Ano Velho. Comment on dirait ça en français ?
Oui, joyeuse dernière année.
C'est difficile à traduire.
Ouais, ouais.
C'est pas bonne nouvelle année, c'est bonne ancienne année, quoi. Ouais. Bon, bref. Et votre frère Marcelo Paiva est connu au Brésil. Comme on dit en argot brésilien, caillou à fiche, je me dis, mais nom d'un chien, c'est Ana Lúcia que je connais un petit peu et qui habite à Paris. Vous habitez à Paris parce qu'il se trouve que vous êtes venu pour faire vos études et que vous êtes tombée amoureuse d'un Français. Donc vous avez votre mari, enfin votre ex-mari est Français. Et donc je voulais qu'on remonte un petit peu dans le temps et que vous nous racontiez quand même cette histoire complètement hors du commun. Le film est un succès phénoménal. Je crois que c'est un des plus gros succès de billetterie. C'est historique au Brésil.
Au Brésil, oui. Au Brésil, c'est le numéro 1. Ça fait plus de 6 millions d'entrées.
Plus de 6 millions d'entrées, rien qu'au Brésil.
Aujourd'hui, oui.
Ouais, rien qu'au Brésil. Le film de Walter Salles, en français, qui s'appelle « Je suis toujours là ». Ainda estou aqui. Donc merci de la présence, Ana Lúcia Paiva. Et puis je vous ai demandé aussi de travailler un petit peu. Je vous ai donné du travail parce que je vous ai demandé de venir avec vos disques. Donc on va aussi faire la bande sonore de cette époque-là, de cette époque que vous avez connue, l'époque notamment de la dictature militaire qui a duré longtemps. On commence par quoi ? C'est vous qui faites la playlist. Qu'est-ce qu'on passe en numéro 1 ?
Oui, en fait, vous avez demandé ça, j'ai réfléchi par rapport à mon âge, en fait. La première fois que je me souviens d'un disque que j'avais acheté, c'était Roberto Carlos, en fait. Et Roberto Carlos était notre Elvis Presley, un peu. C'était les premiers Brésiliens qui faisaient un peu de musique rock. C'était pas vraiment du rock,
non, mais
c'était de genre vanguard.
Oui,
en fait,
on disait les yéyés, en fait.
Les yéyés, ouais. Mm. Et moi, j'étais fan, j'achetais tout, il était beau, il était...
Bon, donc, il était beau, il n'était pas très beau.
Il était à l'époque, hein, quand même. et après, il y avait Vanderlei, qui était aussi... Oui. Ils étaient Erasmo Carlos, Vanderlei et Roberto Carlos.
Vanderlei, c'était un peu la Sylvie Vartan.
Voilà, exactement, ouais. Et donc, pour moi, c'est mon souvenir de musique. Ouais. Le premier que j'ai mis... mon disque vinyle pour écouter, c'était Roberto Carlos. Et donc, j'ai pris celui-là parce que celui-là, en fait, c'est un mélange de deux autres. Parce qu'il y avait une musique de Roberto Carlos qui s'appelait Lobo Mau, et le son Lobo Mau. Hein.
Le loup méchant.
Voilà, le loup méchant. Et donc, il commence les disques en parlant de ces trois autres musiques qu'il a fait avant. Donc, voilà, et c'est là, c'était un peu très dansant. Et comme je suis quelqu'un qui adore danser, je mettais toujours pour danser cette musique-là.
Et Roberto Carlos, c'était celui qui vendait le plus de disques hein, au Brésil. C'était vraiment. Après, alors après, il a complètement abandonné ce registre un petit peu yéyé, et puis il a fait des chansons d'amour et c'est devenu un petit peu le Julio Iglesias brésilien, si vous êtes d'accord. Alors, c'est le choix de mon invité, Ana Lúcia Paiva, Roberto Carlos.
Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bibi? Quero consertar meu Cadillac, bip, 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 bip. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Cullinback, bibi. Quero buzinar o Cullinback, bip, 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 bip. Saí da oficina um pouquinho desolado. Confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Cullinback, bibi. Buzinei assim o Cullinback, bip, 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 bip. E logo uma garota fez sinal para eu parar, e no meu Cullinback fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o Cullinback, bibi. O broto quis andar no Cullinback, bip, 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 bip. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do carango fui gostando. Cullinback, bibi. Quero conservar o Cullinback, bip, 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 bip. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado, um encanto. Mas o meu coração na hora exata de trocar. O Cullinback, bip, bip. Meu coração ficou com o Cullinback, bip, 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 bip. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou me embora. Existem mil garotas querendo passear comigo, mas é por causa desse Cullinback, sabe? Bye! É. Bye! Bye! Aham!
Nous sommes ensemble pour notre heure de musique brésilienne hebdomadaire et obligatoire, c'est Brasil Alto Astral sur Alire FM 93,1 et nous sommes en direct avec Ana Lúcia Paiva, merci de la présence. On va revenir sur évidemment le phénomène du film, Je suis toujours là, le film de Walter Salles, et puis sur votre enfance hein, qui est décrite alors d'abord dans le livre de votre frère Marcelo, qui s'appelle Ainda Estou Aqui, et qui a été adapté donc en 2024, et qui a, en 2025, gagné le... Enfin, l'actrice Fernanda Torres a gagné le Golden Globe de meilleure actrice, et aux Oscars, l'Oscar du meilleur film étranger. Donc c'est quand même assez historique. Alors, vous êtes une des filles du député Rubens Paiva, qui est joué par Celto Melo dans le film. Je ne connaissais pas cet acteur. Il est connu au Brésil ?
Très connu.
Ok.
Très connu.
Alors, je connaissais évidemment l'actrice qui joue le rôle de votre mère, Eunice Paiva. C'est une des plus grandes actrices brésiliennes. C'est Fernanda Torres, qui est elle-même la fille de Fernanda Montenegro, qui apparaît à la fin
aussi
du film.
Parce qu'elle,
en fait, comme le film se déroule sur plusieurs années, votre mère jeune, c'est Fernanda Torres, et la dernière scène du film, c'est la propre mère de l'actrice qui joue votre propre mère. Mm-hmm. C'est une mise en perspective assez intéressante. Votre père était député, et au début du coup d'État militaire, donc en 1964, où le régime militaire se met en place, donc il tombe immédiatement en disgrâce, votre père. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Il était vraiment... trop connoté politiquement ? Ça représentait un danger ?
Oui, en fait, tous les députés de gauche, hein, ils ont été déchus de leur mandat. Et il y avait plusieurs listes. Donc la première liste qui est sortie en avril, hein, parce que les coups d'État, c'était 1er avril. Hein. Mon père, déjà en mois d'avril, la première liste qui est sortie des députés déchus, mon père y était.
Donc là, on est en 1964.
64, ouais. Et alors que c'était un jeune député, il avait 35 ans. Hein. Mmh. Et c'était la première fois qu'il était élu. Ça faisait 6 mois qu'il était élu. Mais dans ces 6 mois, mon père, il a participé de ce qu'on appelle la CPI, c'est Commission parlementaire d'enquête. C'est une commission parlementaire qui fait de recherche sur un sujet donné. Hein. Oui. Donc c'était, il y avait un soupçon que les Américains avaient
favorisé,
aidé et financièrement, etc., financé les coups d'État militaires. Et mon père travaillait dans cette commission qui voulait prouver ça. Il l'a prouvé. Il a réussi à prouver que les Américains étaient dedans. Et donc, c'était le militaire voulait sa tête. Et tout de suite, ils ont voulu sortir de là. Bah ouais. Et mon père était immédiatement exilé dans l'ambassade de Yougoslavie, qui était communiste à l'époque. Oui. Et il était parti avec plusieurs députés, pas tout seul. Hein, ils sont tous partis en Yougoslavie.
Donc votre père s'est, on va dire, auto-exilé ?
Il s'est auto-exilé, oui.
Et ensuite, il est revenu au Brésil. Hein.
Il est venu, c'était une histoire aussi incroyable, 9 mois plus tard. Il est resté quelques mois en Yougoslavie, mais c'était, il était quand même, ils étaient dans une espèce de, le gouvernement a donné une espèce de maison, un banlieue de Belgrade, il était malheureux parce que rien se passait là-dedans. Il est parti à Paris, donc il est resté à Paris quand même plusieurs mois après, dans ces 9 mois, et après il a eu un plan qui a marché. À l'époque, il a pris un avion pour l'Uruguay.
Oui. Depuis où ? Depuis le Brésil ?
Paris.
Ah, depuis Paris.
Depuis Paris.
Ah oui.
Donc cet avion-là faisait escale à Rio.
D'accord.
Et à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, tu sortais de l'avion pendant des escales, il s'était pas contrôlé, etc. Donc il a dit à l'hôtesse de l'air qu'il voulait sortir parce qu'il valait un truc à faire dans au bar. Il avait un truc à acheter. Il est sorti de l'aéroport et il est sorti dehors. Il est revenu comme ça.
Ça paraît incroyable parce qu'aujourd'hui, c'est complètement inenvisageable.
Impossible de faire ça, ouais. Il a paru à la maison, il a sonné. Et mon père était au Brésil, alors qu'on savait pas du tout, qu'on connaissait pas du tout son plan de fuite.
Est-ce que vous vous en souvenez ou est-ce que vous étiez trop petite, Anna Lucia ?
Non, je me souviens quand il est apparu, mais je me souviens pas du tout parce que ma mère était une personne exceptionnelle, mais elle avait un défaut, heureusement, elle était assez secrète. Donc, elle ne disait pas les choses.
Ça se ressent un petit peu dans le film.
Film, ouais.
Alors, elle a ce côté, effectivement, peut-être un peu secrète, mais on comprend que c'est aussi pour vous préserver.
Ouais.
Parce que, alors, on va le dire, votre père a été arrêté en 1971 et votre père a été tué.
Il a été assassiné.
Il a été assassiné. Voilà. Les militaires...
Sous torture, hein.
Voilà, torturé. Votre mère a été arrêtée également. Une de vos sœurs a été arrêtée. Et le régime de l'époque, donc c'était la dictature militaire, n'a jamais reconnu l'assassinat de votre...
Non, ils ont inventé une histoire comme quoi mon père, dans le chemin pour la prison, a réussi à s'enfuir. Des terroristes ont arrêté la voiture de où il était, ont aussi l'enlevé et qu'il était sorti du pays. Mais bon, c'était fou, il était mort déjà.
Alors, Anna Lucia Paiva, c'est l'histoire de votre famille qui est racontée dans le livre de votre propre frère Marcelo, qui va venir bientôt en Europe, hein, c'est ce que vous me disiez, et puis le livre...
Oui, il a traduit ce film-là, il va aller au Portugal, en Espagne, en octobre, il est pour la traduction de son livre.
Il y aura une édition française.
Il y aura une édition française au mois d'octobre.
Et c'est l'histoire de votre famille dans le film de Walter Salles, Je suis toujours là. Nous avons écouté Roberto Carlos, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en deuxième disque ?
Alors, j'ai mis cette musique qui n'est pas belle, hein, pour te dire, en fait, mais c'est les symboles, c'était une musique commandée par les militaires, en fait. Il y avait plusieurs musiques de propagande.
Ouais.
Donc c'est là, d'ailleurs, ça s'appelle Eu Te Amo Meu Brasil, c'est chanté par Los Incrives, qui ne sont pas le compositeur de cette musique, mais ils étaient des interprètes, et c'est une musique de propagande militaire. Et là, la première, j'étais à São Paulo, là, je suis déjà en train de. On a déménagé à Rio, et cette musique était dans toutes les radios. Cette musique des propagandes militaires.
Alors, la première musique que vous avez choisie, celle de Roberto Carlos, au Calianbec, c'est la voiture, hein, c'est ouais. La voiture américaine. Il y a eu une version en français chantée par Joe Dassin et qui s'appelait.
C'est ce que vous m'avez dit.
Voilà, ouais. Et qui s'appelait Bibic. Donc là, c'est le choix de Ana Lucia Paiva aux Incrivis.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
C'est Brésil, Alto Astral, vous écoutez Aligre FM et mon invité est Ana Lucia Paiva. Vous êtes la fille de Feu Rubens Paiva, l'homme politique, le député qui a été arrêté, qui a été assassiné pendant la triste période de la dictature militaire. Donc là, on a bien compris avec... avec Os Incrivis, avec cette musique qui a un petit air de fanfare militaire que
militaire,
voilà,
total,
c'était,
ouais.
C'était de la propagande, disons-le.
Ouais.
Il y avait même, pendant ces périodes, les mini-jeux olympiques militaires, voilà, où c'était une exaltation du corps. Voilà. Mais vous êtes trop jeune. Est-ce que vous vous souvenez du coup d'État du 1er avril 1964 ou vous étiez trop petite, Ana Lucia?
Oui, j'étais petite. Je ne comprenais pas, comme j'ai dit, ma mère ne nous expliquait pas grand-chose. Mais je me souviens, petit à petit, ça a été, les choses sont, je commençais à comprendre. Hein. Donc, bien entendu, il y avait ces histoires de musique qui étaient censurées, les journaux étaient censurés, et donc il y avait... Par exemple, dans les journaux, quand il y avait un article que les militaires censuraient, ils mettaient un texte de Luís de Camões, qui est un écrivain, enfin, un grand écrivain portugais. Donc, pour qu'on sache que quand il y avait un poème ou une écriture de Luís de Camões, c'était parce que l'article était censuré.
Voilà, donc il fallait mettre quelque chose à la place. Donc c'était
voilà, et donc tout le monde savait que ce truc-là était censuré. Et parce que les militaires ont censuré. Donc c'était quand même présent tous les jours, tout le temps, soit un article censuré, soit une musique censurée. Chico Buarque surtout était ceux qui où il censurait les plus.
Oui, qu'il était ouvertement contre le régime des militaires, Chico Buarque, donc il a eu.
Oui, il essayait d'écrire des musiques et il a fait des gymnastiques incroyables pour faire passer des musiques.
Oui, oui,
extraordinaires.
Des textes à double sens.
À double sens.
Et ouais. Alors, ce que vous disiez, par exemple, dans le journal, quand il y avait eu une censure, ça me fait penser à un journal un peu satirique qui s'appelait le Pashkin, qui était un peu le canard enchaîné, on va dire l'équivalent. Parfois ils mettaient des recettes de cuisine, quoi, le Pashkin, et tout le monde comprenait, de faire les paupiettes de veau, etc., c'était pas du tout la ligne éditoriale du Pashkin.
Mais en même temps, simplement, je vais vous dire, j'étais quand même une gamine où j'avais une vie normale, hein. Donc j'allais à l'école, je revenais de l'école, j'avais des copines, on sortait, on allait après à Rio, c'était extraordinaire, parce que j'ai eu une énorme chance de vivre à Rio quand il n'y avait pas de violence, ouais. Quand il n'y avait pas de problème de sécurité, on marchait dans la rue.
Vous alliez à la plage
Non, et surtout, on n'avait pas de clé dans ma maison. J'avais la maison que vous avez vue dans le film, oui. C'était ma maison, elle était exactement...
Oui.
Il a trouvé la même à Walter Salles, c'est extraordinaire.
Et donc, cette
maison-là, il n'y avait pas de clé.
Donc on est à Ipanema.
Leblon.
Juste le prolongement d'Ipanema. Ouais. Et donc, quartier chouette de Rio.
À l'époque, c'était pas... Il faut le dire qu'à les années 70, c'était un quartier qui était pauvre,
ah
parce
bon
qu'il y avait une énorme favela.
La favela, voilà. Des journalistes.
Et
non,
personne
c'est pas
ne voulait... Derrière, non, il y avait la favela do Pinto, qui c'était une favela où il y avait des gens pauvres. Et les favelas, à l'époque, c'était pas un endroit où il y avait des trafiquants de drogue.
C'était des petites bicoques.
Des gens pauvres, oui. qui travaillaient comme tout le monde, mais qui n'avaient pas les moyens de s'acheter une maison. Ils construisaient des baraques en bois.
C'est ça.
Et c'était les favelas, mais c'était des gens qui, vous avez vu dans les films, mon frère jouait au foot avec les garçons de la favela. C'était pas un problème.
Oui.
Et donc, les riches n'allaient pas là-bas, en fait.
D'accord.
Mais mon père, qui était quelqu'un qui avait une vision quand même... deux choses, il disait mais la plage elle est exceptionnelle, il a loué cette maison, c'était pas à nous.
D'accord.
Cette maison.
Après il y a eu la gentrification et il se trouve qu'aujourd'hui
c'est
le quartier
devenu,
le plus cher de
ils ont mis feu sur cette favela, donc les militaires.
Oui, oui, puis les militaires ils aimaient bien déplacer aussi les favelas, hein. Celle qui était à Lago, qui s'appelait les Catacombes, je crois,
mm-hmm.
Elle a été déplacée, c'est devenu la cité de Dieu, donc Cidade de Deus avec le fiasco, ça s'est très très mal passé. Quand on regarde le film, on a l'impression, Ana Lúcia Paiva, que vous êtes née dans un milieu, on va dire, favorisé,
mm-hmm.
Intellectuel.
Mm-hmm. Oui.
On a l'impression que il y a beaucoup d'amour. Déjà entre votre père et votre mère, et puis les enfants, c'est des enfants normaux. Parfois ça danse, parfois ça fait des petites bêtises, parfois ça rigole beaucoup. C'est plein de vie. On ressent aussi parfois une légère influence de la France. Je sais plus ce qui me... À un moment on entend Serge Gainsbourg chanter ou...
On mange des soufflés.
Ah oui, vous mangez des soufflés et il me semble que votre mère maîtrise un peu le français, non?
Oui, en fait, à l'époque de mes parents, la France était quand même beaucoup plus présente au Brésil que d'autres pays.
Il y avait un rayonnement.
Et ma mère a fait une école de jeunes filles en français, donc elle parlait mieux que je parle aujourd'hui, parce qu'elle a appris. Moi, je n'ai jamais appris, en fait, vraiment le français. Je parle, mais je n'ai jamais eu de...
Vous n'avez jamais étudié, mais vous avez appris le français, bien sûr.
Appris le français,
oui. Oui.
Et donc, les bonnes manières, c'était appris, hein, même si elle est d'origine italienne, ma mère. Mais c'était le chic, en fait, c'était apprendre le français, parler le français, et avoir les bonnes manières. Et donc, la cuisine, c'était la cuisine française, etc. Donc, effectivement, la France a toujours été quelque chose de très important pour nous, pour mes parents. Et quand plus âgée, j'ai déjà habité en France, une fois elle est venue me voir et elle m'a dit que c'était leur rêve, à elle et à mon papa, à la retraite, acheter quelque chose au sud de la France et vivre, passer ses vieux jours ici.
Alors, ça ne s'est pas fait, mais votre mère est morte âgée.
Elle avait 86, 86 ans.
Ouais. Voilà. Ça, c'est la fin du film. On va un petit peu dévoiler. Mais troisième musique, qu'est-ce que vous choisissez, Anna Lucia?
Alors, donc à Rio, au début, donc là, j'ai eu ma petite bande de 12 ans. J'ai commencé à avoir des petites copines. On faisait des booms, on faisait des petites fêtes. Mmh. Et chez moi, je faisais dans cette maison, je faisais deux fêtes. Et Walter Salles était mon copain à l'époque.
Alors, le réalisateur du film.
Le réalisateur
du film. Donc, vous le connaissez depuis longtemps.
On se connaît depuis...
Il est plus jeune que vous.
Il a mon âge. Il a même plus âgé.
Ok, d'accord.
Il a un an de plus.
Mais je trouve qu'il a toujours une tête de gamin, presque, oui, Walter Salles. Ouais. Je ne sais pas comment il fait.
Il a un an de plus que moi. Et il fréquente ma maison. Donc, il vient dans les fêtes. Et il y a un clin d'œil dans les films. La musique de Gainsbourg qui me fait danser. Parce que c'est moi qui danse, d'accord, la musique de Gainsbourg, mmh, dans le film.
C'était « Je t'aime, moi non plus ».
Voilà, « Je t'aime, moi non plus ».
Qui a été censuré au Brésil. Hein. Le disque, oui, a été censuré.
Après, ouais. Ouais. Et il m'a raconté après que c'était un souvenir qu'il a connu cette musique chez moi. Et donc, je pense qu'il a fait un clin d'œil de me mettre à danser cette musique.
Ah, ouais.
Et mon père nous a amenés, c'était à l'époque du festival des Quinçons, de la Quinçon.
Ah oui,
au Brésil,
il y avait des super festivals de musique.
Et à Rio, il y en a un qui s'appelait Festival International, oui, de la Quinçon. Chanson, je ne sais pas du tout pourquoi international, parce qu'il n'y en a jamais
eu. C'est vrai, bah ouais.
Il n'y avait pas d'internationaux là-bas.
Pas du tout.
Et cette année que je suis allée avec Walter, donc j'ai mis cette musique en pensant à lui, à nous, à mon époque des 13 ans.
C'était où, vous vous souvenez, c'était au Maracanazi?
C'était au Maracanazi, ouais. Et c'est mon père qui nous a amenés. Et Walter, il a un souvenir, et c'est vrai. On avait deux voitures, donc la rouge qui est dans les films et qu'il a réussi à prendre la même. Hein,
la Coccinelle?
C'était une Opel.
Ah non, c'était pas une Coccinelle,
c'était,
oui, vous avez raison.
Une Opel. Et après, on avait une Galaxy, c'était une Chevrolet. Et on avait plein de gamins, et nous cinq, mon père et ma mère nous amenaient tous au festival. On avait sept gamins dans cette voiture rouge, on était les uns sous les autres.
Oui, il n'y avait pas les sièges bébés hein, à l'époque. Hein,
ah non, ouais, non, ni ceinture de sécurité.
Non, non, non.
Donc, et Walter se souvient très bien de cette allée à ces festivals-là. C'est un festival qui a gagné, qui avait les deux à la fin. C'était Tony Tornado qui chantait la BR3. Tony Tornado avait un côté américain.
C'est l'autoroute, hein, la BR3.
Ouais, BR3, c'est une autoroute, c'est comme A13, ouais, on peut dire ça comme ça. Et Tony Tornado, il faisait un peu le parallèle avec le black américain, les mouvements black de l'époque.
Ah, ouais.
Donc il chantait un peu, il s'était habillé un peu très américain. Mmh. Enfin, il y avait Yvan Lins qui chantait, comment s'appelle la musique?
Ou Amour
et Mon Pays.
Ouais,
et moi, j'étais pour Yvan Lins. Et j'adorais cette musique. Et Yvan Lins était très beau aussi. Donc, toutes les filles.
C'était un bel homme. Hein.
Ouais, on était amoureuses de lui. Et je peux vous dire, quand j'ai mis cette musique sur Spotify pour choisir pour aujourd'hui, j'étais en larmes. Parce que ça m'a rappelé ce moment extraordinaire des joies au Brésil avec mon père.
Alors, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que le Maracanazinho, c'est une salle de spectacle qui touche le stade de foot du Maracana, qui a une jauge de 10 000 personnes, donc c'était assez conséquent. Et Yvan Lins, il est toujours vivant.
Oui.
C'est un chanteur. Alors, je trouve qu'il ne chante pas très bien, excusez-moi, Anna Lucia.
C'était les symboles, en fait, que j'ai mis.
Et puis, c'est un peu bagunçado, comme on dit au Brésil. Hein. C'était un peu la foire aussi, hein. Les festivals, tout le monde encourageait ou huait.
Ah oui, oui, c'était...
Le public n'était pas très discipliné.
C'est une Coupe du Monde, hein.
Oui,
tout le monde supportait.
Ambiance de Coupe du Monde. Alors, on écoute votre choix musical, Anna Lucia Paiva, Yvan Lins.
Segundo, lá no fundo de você, eu queria me perder, oh, me perdoa. Porque eu ando à toa sem chegar. Quão mais longe se torna o cais, lindo a voltar. É difícil meu caminhar, mas vou tentar. me importa qual seja a dor, nem as pedras que eu vou pisar. Não me importo se é pra chegar. Eu sei, de você fiz o meu país, vestindo festa e final feliz.
Brasil Alto Astral, sur Aligre FM, je reçois Ana Lucia Paiva, c'est votre choix musical, Ivan Lins. Là, c'était pas une chanson de propagande, hein, par contre.
Non, et c'est surtout symbolique d'une époque, en fait. Ouais. Je peux pas dire que j'écoute aujourd'hui à la radio cette musique chez moi.
Non, mais ces festivals sont un marqueur dans l'histoire de la musique. Chico Buarque a gagné en 1966 le Festival international de la chanson. Elis Regina a triomphé.
Caetano.
Enfin, tous.
Ouais.
C'était l'anti-chant. Ouais. Que vous aviez prélisté, mais comme on a parlé de Caetano, en fait, vous m'avez envoyé beaucoup trop de musique, Alicia. Et là, je ne l'ai même pas passé en entier.
On va faire trois émissions.
Non, mais
en fait.
Ouais, mais carrément. Et là excusez-moi, mais je ne l'ai pas passé en entier parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à raconter. L'histoire de votre famille est intéressante. C'est historique. Donc, vous êtes la fille du député Ruben Spive, qui a été donc arrêté, torturé, assassiné en 1971 par le régime d'extrême droite, hein, de la dictature militaire qui a duré 20 ans au Brésil. Donc il représentait un danger puisqu'il a réussi à prouver que l'intervention militaire avait été donc fomentée, favorisée par les États-Unis, donc il fallait le faire taire. Est-ce que vous pensez que peut-être que votre père a aussi commis des actes terroristes ou qu'il a été tenté par le terrorisme, ou est-ce que vous n'en avez absolument aucune idée ?
Non, on savait quand même ça. Par contre, plus tard, on a discuté, enfin, plus adulte, beaucoup avec maman. Et non, il n'a jamais été... Mon père était socialiste, en fait.
C'était pas un excité
Non, pas du tout. Il était socialiste. Il n'était pas au Parti socialiste, justement... Parce que les partis socialistes de l'époque, il y avait une branche un peu trotskiste, trop à gauche, et il n'aimait pas ça.
C'était un modéré, quoi.
C'était un modéré, donc c'était en fait quelqu'un qui se battait par les droits de l'homme par les libertés, quoi. Mmh. Et en fait, ce qu'il faisait, et qui s'est montré dans le film, simplement... pour les exilés politiques, qui envoyaient des lettres aux familles, ils distribuaient ces lettres-là.
Oui, il y avait de la solidarité, en
fait. C'était un peu... C'était ça, ce qu'ils faisaient. Mais, en fait, à l'époque, la coïncidence, en fait, c'était que... il y avait de l'enlèvement d'ambassadeurs des États-Unis,
ce qui n'est
pas n'importe quoi.
Oui, oui, ça, il faut le raconter.
Et juste après, l'enlèvement d'ambassadeurs suisses. Et en fait, ils cherchaient désespérément les coupables de ça, la bande qui a fait ça, qui a organisé ça. Là, effectivement, c'était des gens qui faisaient la guérilla. Et les lettres qui ont été envoyées, cette dernière lettre là qui sont venues, il y avait des gens qui étaient au Chili, dont il y avait des gens qui ont participé à l'enlèvement de l'ambassadeur américain. Et donc, ils se sont dit que mon père était donc mêlé à ça.
D'accord.
Parce que il y avait une personne dans ce groupe-là qui a participé qui était exilée et qui participait de l'enlèvement d'Américains. Donc je dis ça doit être la même bande, sauf que, enfin, on est convaincus, aussi qu'il y a eu, c'était une erreur, ils ne voulaient pas tuer mon père, en fait.
Oui, j'imagine bien, oui.
Ils ont fait très vite, ça a duré 24 heures, en fait. Ouais. Je ne pense pas on ne pense pas qu'ils voulaient tuer, mais ils ont eu un imbécile qui a fait trop.
Oui, c'est un peu la conclusion qu'on a quand on assiste, on assiste au film, effectivement. Mmh. Et puis, c'est ensuite, juste après, au tour de votre mère, d'être embarquée. Déjà, il y avait les flics devant la maison, dans la maison également. Et puis là, il y a un moment où votre mère essaye de... pas de dédramatiser, mais en fait, elle essaie de vous préserver, de ne pas trop vous inquiéter, et jusqu'au moment où elle est elle-même emmenée avec une de vos sœurs. Et là, elle passe plusieurs jours en prison, 12 jours.
Mais c'était les lendemains. Tout
de suite après, elle a été arrêtée.
Il était arrêté le matin du 20 janvier, et ma mère était enlevée le lendemain matin. Et en fait, ce qu'on pense, et ce qui est très logique, c'est que comme mon père ne parlait pas, parce que mon père ne disait rien, il voulait savoir le nom de la personne à qui il allait donner les lettres. En fait.
D'accord.
Et mon père ne voulait pas le dire. Donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup tapé. Et pour nous, ils ont pris ma mère et ma sœur, tôt le matin, pour torturer les deux devant mon père.
Mais pourquoi votre sœur ?
Justement, il faisait ça à l'époque. Il prenait les enfants, il torturait les enfants devant.
Ah oui.
Pour le faire parler.
D'accord.
Parce que ça, c'est insupportable.
Oui, oui.
Donc, sauf que quand ma mère et ma sœur est arrivée, mon père est mort.
Hmm.
Ces matinées-là.
Mais votre... Alors, on va préciser que votre mère, quand elle est en prison, elle ne voit pas votre père.
Ben, mon père était mort. Elle est arrivée le jeudi matin... Et le jeudi matin, mon père, il n'a pas duré 24 heures.
Oui, oui.
Et donc, quand il est arrivé...
Elle ne le savait pas.
Elle ne savait pas,
oui. Donc, il y avait peut-être un espoir. Est-ce que je vais réussir à le voir ?
Elle pensait qu'il était...
Parce que même, il y a un début de, entre guillemets, de fraternisation avec un des gardes qui, à un moment, lui dit, vous savez, moi, je n'approuve pas. Je fais mon boulot, mais je n'approuve pas du tout. Donc...
C'était des jeunes soldats, en fait. C'était des très jeunes soldats. Qui venait de Santa Catarina.
Du sud du Brésil.
Du sud du Brésil, parce qu'ils ne mettaient pas des soldats de Rio pour justement pas qu'ils se...
Pas qu'il y ait de connexion du tout.
Les prisonniers. Donc les pauvres jeunes militaires, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là, quoi.
Ouais, ils obéissaient aux ordres. Alors c'est vous, Ana Lúcia Paiva, qui faites aussi la programmation musicale. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant ?
Alors, donc en fait, là, mon père a... est parti. 6 mois plus tard, maman décide de déménager à São Paulo. Là déjà, donc São Paulo, je suis au collège, je rentre à l'université. Et à l'université, là, effectivement, et là, je commence à être beaucoup plus consciente de ce qui se passe au niveau des dictatures militaires, ce qu'ils ont fait. Et là, à l'université, ça bouillonnait des mouvements politiques, d'organisations d'étudiants.
Alors là, on est en quelle année, à peu près, pour nous situer ?
On est à 86, à peu près.
Ah ben, c'est la fin de la dictature.
La dictature est terminée en 76.
On est en plein
milieu. Je suis rentré en 76, oui, 78 par là, pardon.
On est au milieu de la dictature.
Ouais.
Mais on est aussi... c'est pas le pire. Le pire est passé, puisqu'en fait, En fait, la dictature, c'est pas linéaire. Ça monte en puissance dans l'oppression, jusqu'à l'acte institutionnel 5. Donc là, il n'y a plus de liberté, etc. Et puis après, il y a Medici... qui est peut-être le pire, et puis ensuite Geisel qui se dit bon, il faut que je lâche un petit peu parce que sinon je vais avoir la révolution. Et puis après Figueiredo de Magalhães qui lâche encore un petit peu, là ça commence à se détendre.
Oui, mais là, quand je suis rentrée à l'université, je me suis trompée des 10 ans, je sais pas, ça sur 86 et 76, ouais. Et là, il y avait quand même beaucoup de répression. J'ai dit moi-même, j'étais arrêtée.
Vous avez été arrêtée ?
J'étais arrêtée quand j'ai fait un mouvement d'étudiants, on a fait une manifestation pour la démocratie. C'était ça, la manifestation. C'était rien d'autre. C'est les étudiants qui demandaient le retour à la démocratie. Et là, il y avait à l'université, quand même, on s'est caché pour faire des réunions politiques. Il y avait tout un soin à avoir parce que sinon, on était arrêtés. Plusieurs collègues ont été arrêtés. Et un jour, il y a eu un show, un concert de Milton Nascimento.
De chanteur.
De chanteur à l'université, dans un théâtre ouvert à l'université de São Paulo, avec des centaines d'étudiants. Et c'était très émouvant. Et il a chanté cette musique qui s'appelle O Que Será, non ?
Qu'on va écouter maintenant. Alors, des plus belles voix masculines, Milton Nascimento, ouais. Il est toujours en vie. Il est toujours vivant.
Et avec Chico Buarque.
Avec Chico Buarque, qui symbolise.
C'est quand il a lancé son disque Gerais. Il a lancé deux disques, Minas Gerais. Celui-là, c'est les Gerais. Et ça, j'ai écouté cette musique avec Milton Nascimento qui l'a chanté à l'université de São Paulo. Et tout le monde était très ému parce qu'on n'avait pas le droit beaucoup à des spectacles. Au vivo, comme on dit ça.
En direct. Ouais. Et puis bon, Chico Buarque, c'est quand même le chanteur contestataire. C'est lui qui a été le plus censuré. Cette musique a été reprise par Claude Nougaro, qui a fait une version française. O que será?
Será que me dá, que me bole por dentro? Será que me dá, que brota a flor da pele? Será que me dá, e que me sobe as faces, e me faz corar? E que me salta aos olhos, a me atraiçoar? E que me aperta o peito, me faz confessar? O que não tem mais jeito de dissimular? E que nem é direito ninguém recusar. E que me faz mendigo, me faz suplicar. O que não tem medida, nem nunca terá. O que não tem remédio, nem nunca terá. O que não tem receita.
O que será, que será, que dá dentro da gente que não devia? Que desacata a gente, que é revelia, que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, que nem todos os santos, será que será? O que não tem descanso nem nunca terá. O que não tem cansaço nem nunca terá. O que não tem limite.
Dans Brésil, Alto Astral, nous sommes en direct jusqu'à midi. Vous écoutez Aligre FM, je reçois Ana Lúcia Paiva, fille du député Rubens Paiva, donc assassiné en 1971 par le régime militaire au Brésil pendant la dictature. Et c'est vous qui faites aussi la programmation. Là, on a écouté votre choix, Milton Nascimento. Alors, je voudrais, Ana Lúcia, qu'on revienne un petit peu sur le film, puisqu'on n'a pas pu encore lire le livre, mais bientôt il y aura une version en français. C'est l'événement, hein, c'est l'événement cinématographique, hein, au Brésil. Est-ce que vous pouvez quand même concevoir une seconde qu'il y a eu un appel au boycott au Brésil de la part des supporters de Jair Bolsonaro, quoi, qui disaient non, non, n'allez pas voir ce film. Enfin, est-ce qu'on peut.
Oui, bah, tu, vous savez, ils sont quand même étonnants, mais ça n'a pas marché. Hein.
Non, bah non, succès, 6 millions de.
Et les gens et les copains de Bolsonaro ont adoré les films, donc c'est ça qui est bien.
Ah bon les ouais. Ah oui.
Oui, oui, oui. Après, ils ont quand même eux-mêmes aimé les films. Et ça aussi a ouvert beaucoup les Brésiliens, les jeunes, ils se rendent pas compte ce qu'était la dictature.
Non,
et là, ça rappelait
compte.
Quand même
ouais.
Parce que Bolsonaro disait que c'était beaucoup mieux pendant la dictature, qu'il y avait.
Ah mais c'est même pire que. Enfin Bolsonaro, ouais. C'est bon. Je pense que c'est un cas désespéré. Hein, on va pas le ramener à la raison. Mais moi, je connais. Dans mon entourage, des Brésiliens qui disent « Oui, bon, d'accord, certes, on n'avait pas le droit de critiquer le régime, mais au moins, on pouvait rentrer à 1h du matin sans se faire voler par un pickpocket, et puis les rues étaient propres, et puis il n'y avait pas de corruption, ce qui est complètement faux. Hein, y avait de la corruption pendant la dictature. » Et je connais même des Brésiliens qui disent « Moi, je ne parle pas vraiment de dictature, je parle de période militaire. » Alors que, bah, y a eu, comme votre père qui était politisé, bah non, il y a eu des enlèvements, il y a eu de la torture, il y a eu des gens qui ont été exilés, il y a des gens qui ont été assassinés. Mais bon, voilà quoi. Toujours des nostalgiques.
Aligre FM 93.1.
Est-ce qu'on peut dire un mot sur l'intervention de Fernanda Montenegro ? À la fin du film, tant pis, on raconte la fin, mais de toute façon, voilà. Allez quand même voir le film, parce que c'est assez touchant. Il y a une scène de déjeuner familial. Donc, votre mère est âgée, elle vit ses dernières années. D'ailleurs, elle perd la tête, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a des interactions, mais elle ne réagit pas. On lui demande « ça va, tu veux te mettre à l'extérieur, tu veux faire une photo avec nous ?» Bon, bah, elle ne répond pas, parce qu'elle est un petit peu ailleurs. Et alors, c'est quand même Fernanda Montenegro hein, qui fait ce rôle qui dure quelques minutes, c'est un plan séquence. Donc, la propre mère de Fernanda Torres, qui est, on peut dire, c'est la plus grande actrice brésilienne.
Oui, oui, non, mais elle est exceptionnelle. Et en fait, elle a. Je vous donne un scoop, il y aura. Le film, il fait 3h30 en fait.
Et, il y aura une version longue.
Il y aura une mini-série.
Ah.
Et il y a beaucoup plus de scènes avec Fernanda Montenegro que ce qu'il y a eu dans le film.
Ah oui, ça c'est un vrai scoop. C'est-à-dire qu'en fait, Walter Salles, quand il filmait, il savait très bien qu'il y aurait une version long-métrage et une version série.
Mmh.
Ah, génial.
Ouais.
Okay.
Et donc, il aura plus, parce qu'elle a fait plus de scènes... alors, le film s'appelle Ainda Estou Aqui, parce que maman, en fait, elle
Je suis toujours là.
Ouais, je suis toujours là. C'est parce que, en fait, c'était rigolo, enfin, très étonnant. Son Alzheimer, de temps en temps, ça reconnectait.
Ah bah
on
oui.
avait l'impression que
oui.
les fils se reconnectaient.
Oui, c'est. T'as et des donc, périodes de lucidité.
Voilà. Et donc, là, ce n'était un, et c'était une histoire vraie. Hein. On était vraiment dans un déjeuner où elle a vu l'image de mon père à la télé. Et elle a commencé à parler, en fait. Dans le film, on n'entend pas, comme elle disait regardez, regardez, regardez. Et on est tous venus et on a vu.
Mais vous vous en souvenez, ça, Anna Lucia?
Ah oui, bien sûr. C'était très émouvant, quand même,
de
la voir.
Bah oui.
Et elle montrait avec les doigts, elle disait « Regardez, regardez, regardez !»
Parce que ça a été, toute sa vie, ça a été, pas sa quête, je dirais, mais on peut, enfin, je pense qu'elle y pensait tous les jours. Vos parents s'aimaient vraiment d'amour, en tout cas, c'est l'impression qu'on a dans le film. Et votre mère a un parcours quand même assez incroyable, c'est-à-dire qu'elle a repris ses études, donc votre père était mort, pas officiellement, mais bon, au bout d'un moment, on se dit, bon, il n'y a pas de corps. Votre mère reprend ses études. Vous êtes grand déjà, les enfants. Elle a presque 50 ans. Elle fait du droit. Elle s'engage ensuite dans la cause des peuples indigènes. Elle a un parcours de vie qui est vraiment... Elle recommence, quoi. Elle recommence, enfin, en tout cas, sur le plan... professionnel, c'est quand même assez remarquable.
Oui, et surtout, donc en fait, elle n'a jamais voulu faire la politique activement dans être députée ou participer d'un gouvernement, mais elle a toujours fait la politique par derrière, on peut dire ça comme ça.
Oui.
Et elle a
des
engagements politiques, elle a quand même participé aux deux lois dans la Constitution qui défendent les Indiens. Ma mère a participé à l'élaboration de ces lois-là. Aux démarcations des terres des Indiens. Et autre scoop, c'est que Walter Salles est en train de créer une fondation qui s'appelle Eunice Paiva, en défense, avec la billetterie du film.
Avec les recettes.
Avec les recettes du film, ouais. Donc on va continuer. Okay. Ouais, il va continuer avec le travail de ma maman, ce qui est quand même.
Et ça, ce sera en faveur des peuples indigènes,
ouais,
qu'on appelle à tort les Indiens.
On est en train d'organiser la gestion de cette association, de cette fondation. Ça va être une fondation plutôt. Et elle était quand même incroyable. Elle avait et en même temps, on n'a jamais vécu dans la tristesse, dans la
bien
tragédie,
non.
Bien au contraire.
Et ouais. Même, elle vous demandait de sourire.
Voilà.
On sourit, on prend la photo, voilà. On sourit, il y a le flic qui est en train de nous regarder, qui nous espionne, on sourit, c'était une forme de, je sais pas, de sa manière elle, de résister. Demain, c'est la fête de la musique, il y aura de la musique brésilienne au Café Gabriel, ce sera Marcia Grandini qui chantera, le Café Gabriel c'est 151 rue de la Roquette, dans le quartier de Bastille, ça commence à 18h, vous, Ana Lucia Paiva, c'est vous qui passez la musique, vous êtes venu avec vos disques, qu'est-ce qu'on écoute maintenant?
Bah là, on parle, c'est une musique qui a étonné tout le monde parce que dans les films, il y a la musique d'Erasmo Carlos, Es Preciso Dar Um Jeito Meu Amigo, que personne ne connaissait et qui est magnifique. Donc, il fallait absolument que j'ai choisi.
Non, vous en avez sauté un.
J'ai sauté un.
Ouais.
Ah oui, pardon.
Vous allez un peu vite en besogne.
Oui, alors, donc c'est vrai. C'est vrai que là, après, bon, la dictature s'arrête hein, quand même, à un moment
1985.
Donné. 1985. Et la vie reprend. Et il y a quelqu'un qu'il fallait quand même que je mette une musique, c'est Caetano Veloso, qui c'est quand même
meilleur chanteur du Brésil.
Notre adoré Caetano Veloso, avec une musique, comme je vous ai dit, j'adore danser, où on met dans toutes les fêtes, et chaque fois que je mets une fête, je commence avec cette musique-là.
Il a eu des petits problèmes aussi, hein, en 1969, avec son copain Gilberto Gil, les deux petits gauchos, là, ils ont eu des problèmes avec les autorités.
Ah oui, ils sont partis
hein.
À Londres,
ouais,
d'ailleurs.
Ils ont été exilés.
Exilés à Londres, et ma sœur les a rencontrés à Londres quand elle était là-bas.
Votre sœur aînée.
Aînée, oui.
Elle part en Angleterre, effectivement.
Et elle a rencontré les deux qui étaient exilés là-bas, qui ont l'accueilli. Ah. Voilà. Ça s'appelle Nauench et est déjà une autre phase, c'est après dictature.
Nauench, moi je traduis par fais pas chier, ça vous convient?
Oui, voilà,
fais
très
pas
bien.
Chier okay. Caetano Veloso, le choix de mon invité, Ana Lucia Paiva.
Me larga, não enche, você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente, é que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver. Meu lado, meu jeito, o que eu herdei de mim a gente nunca posso perder. Me larga, não enche, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver. Cuidado, oxente, está no meu querer poder fazer você desabar do salto. Nem tente manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, demente, a melodia do meu samba põe você no lugar. Me larga, não enche, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar, me deixa cantar. Eu vou clarificar a minha voz, gritando nada mais de nós. Mando meu banho anunciar, vou me livrar de você, arpia, aranha, sabedoria de rapina.
Ça me fait mal au cœur, je suis obligé de couper Caetano Veloso, mais c'est bientôt la fin de cette émission. Ana Lucia Paiva, je disais que le succès du film Je suis toujours là est donc complètement inédit. Vous êtes allé à la cérémonie des Oscars vous-même à Los Angeles. Ah, approchez-vous peut-être un peu du micro.
J'ai de la chance et j'ai été super bien placée. J'étais en bas, pas très loin de Walter Salles et Fernanda Torres.
Donc vous avez assisté au triomphe.
J'ai assisté au triomphe.
Je crois que c'est la première fois qu'un film brésilien remporte un Oscar.
C'est
historique.
Première fois, ouais.
Et vous disiez j'adore danser, Ana Lucia. Et comme, en fait, vous habitez à Paris depuis longtemps, moi, ce n'est pas la première fois que je vous rencontre. Et je me souviens qu'une fois, on était dans une fête, il y a longtemps, chez des amis brésiliens en commun. Et on avait mis de la musique. et on chantait sur « Apesar de você » de Chico Buarque, qui est l'hymne de la résistance. Hein. C'est « Apesar de você », c'était... Et à un moment, nos regards se sont croisés et on chantait, mais comme des excités, « Apesar de você », en levant les bras, comme un mouvement d'opposition, de résistance à la dictature, mais c'était aussi un moment de joie aussi. On était dans une fête, on s'était bien habillé, tout le monde était beau, on était jeune en plus, c'était il y a longtemps.
Je ne me souviens pas de ça, mais merci de rappeler.
Je m'en souviens très très bien. Merci beaucoup de la présence, Anna Lucia Paiva. Merci à la technique, Philippe Dunfort, assisté de Anaïs Croque-Lois, midi pile, votre poste de radio vous donne l'heure en switchant automatiquement vers nos amis de Cause Commune que l'on salue au passage. Les programmes d'Aligre FM reprendront à 17h et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Brésil Alto Astral. On se quitte avec votre choix ultime, Erasmo Carlos e Preciso da Jeito, meu amigo.
E a viagem foi tão longa. E na minha caminhada, obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Mas estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. As crianças são levadas pela mão de gente grande. Quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim. É preciso dar um jeito, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim. É preciso sim, é preciso dar um jeito, meu amigo.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.